wake up every morning with my head up in a daze. I'm not sure if I should say this, fuck, I'll say it anyway. Everybody tries to tell me that I'm going through a phase. I don't know if it's a phase, I just wanna feel okay, yeah. I battle with depression, but the question still remains. Is this post-traumatic stressing or am I suppressing rage? And my doctor tries to tell me that I'm going through a phase. Yeah, it's not a fucking phase, I just wanna feel okay, okay. Yeah, I struggle with this bullshit every day. And it's probably cause my demons simultaneously rage. It obliterates me, the sense operates me.
The Falling in Reverse, Popular Monster. Je suis pas un fan tant que ça du nouveau rap, définitivement. Encore moins l'espèce de rap, pas de rap, mais de mix rap rock. Genre, il y a des bonnes tunes, mais j'ai vraiment l'impression plus souvent qu'autrement, c'est juste comme de l'autotune qui est mixé, puis c'est vraiment juste fait pour être accrochant, que vraiment véhiculer un vrai message. Mais tu sais, encore là, je pense que je suis probablement biaisé dans mon approche parce que c'est vraiment sur une chanson ou n'importe quelle œuvre artistique, entre guillemets, c'est beaucoup d'écriture, puis j'ai l'impression que ce mouvement-là du rap qui est comme mixé sert plus souvent qu'autrement à grossir ton marché qu'à vraiment délivrer un produit. Mais tu sais, je pourrais 100% avoir tort. Ça pour vous dire qu'il y a probablement des bons artistes qui font vraiment un excellent job, mais j'ai vu quand même beaucoup de ça, je pense. Hein. Mais j'ai une relation un peu weird avec l'artiste que je viens de partir, qui s'appelle Falling in Reverse, à cause que il y a beaucoup de ces tunes qui est dans le rap traditionnel, ben pas dans le rap, mais tu sais, dans le courant du rap traditionnel, où est-ce que dans le fond, il fait juste dire « Je suis tough, je suis allé en prison, je suis ci, je suis ça », puis c'est comme juste une espèce d'éloge à quel point c'est un gangster, puis cette branche-là du rap, mais tu as un offre quand même significativement. Puis je comprends que ça peut être attrayant. Je comprends que dans un workout, ça sonne quand même assez bien. Mais je sais pas, ça a juste jamais vraiment résonné avec moi. Par contre, dans cette tune-là, l'intro est vraiment, vraiment hot. Parce que, comme je l'ai dit, il fait quand même pas mal de tunes où est-ce qu'il parle de son background en prison, de comment est-ce que c'est un thug, genre. Puis là-dessus, il start la tune avec, genre, comment c'est de la misère. Il y a comme une évolution du personnage. C'est vraiment hot parce qu'il fait comme... Il simule comme une espèce de rencontre avec un psy. Là, comme, il nie un peu le fait qu'il y a un problème, il nie le fait qu'il est dans un état dépressif, puis c'est comme, autour, dans l'intro, il prend comme conscience de ça, puis après, il se fait confronter de ça, fait que c'est comme, ce glimpse de vulnérabilité-là, venant d'un acteur, venant d'un rappeur qui fait vraiment pas ça, j'ai trouvé ça vraiment cool, fait que cette tune-là est quand même cool, Popular Monster, je vous invite à aller la voir si vous avez aimé. Un podcast solo, en fait, ça fait un petit peu que j'ai pas fait de podcast solo, même si j'ai fait un podcast toutes les semaines depuis, sauf les 2 semaines de Noël, on a fait un podcast à toutes les semaines depuis un bon bout, avec Maxime ou avec d'autres personnes. Podcast solo, où est-ce que je prends vraiment le mic seul parce que j'ai quelque chose à dire, ça fait un petit bout quand même. Fait que je me suis dit que j'allais le reprendre, fait que je me suis équipé d'une bonne vieille boisson d'urgence le dimanche après-midi, Ring au raisin. J'ai vraiment un problème avec ces shit-là, sérieux. C'est inquiétant, mon affaire. Mais bon, j'ai une merde que c'est bon. Si, en fait, allez pas en essayer. C'est juste ridiculement bon. Vous ouvrez la porte à l'addiction. C'est pas de bonne chose. Faites pas ça. Mais sérieusement, c'est ridicule à quel point c'est bon, ces affaires-là. Fait que je me suis équipé d'une boisson pour vous parler d'un sujet que j'ai vraiment de la misère à me positionner. Depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, puis c'est vraiment quelque chose qui a été accentué dans la dernière semaine. Puis je vais peut-être vous conter pourquoi, il y a une petite histoire de pourquoi est-ce qu'on est là en ce moment. J'ai été silencieux sur tout ce qui est opinion sur la COVID depuis pratiquement le début. J'ai estimé que j'avais une job à faire, que cette job-là était de m'occuper de mes clients, de m'occuper de mon monde, d'essayer quand même de faire la promotion des scènes d'habitude de vie, que ce travail-là était plus important dans le climat actuel que moi qui donne mon opinion sur les médias sociaux. Fait que ça a comme régi une grosse partie. Fait que j'ai tout le temps été silencieux un peu sur cette situation-là, sur la COVID, puis sur tout ça. Sur la situation en soi, tu sais, j'ai essayé d'être plus concret dans mon approche sur donner des solutions, donner des pistes d'amélioration, essayer de diriger, mais vraiment, de donner mon opinion sur les choses, j'ai été très, très frileux. Puis c'est aujourd'hui que ça se passe parce que on entend, depuis le couvre-feu, en tout cas, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui écoute de la France, là, fait que je vais vous mettre, je sais pas si c'est beaucoup, mais il y a du monde qui écoute de la France, puis juste vous mettre en contexte, la semaine passée, ou il y a 2 semaines, le Québec a voté un couvre-feu, que tout est tombé à 20h, puis je pense qu'il y a définitivement des contraintes environnementales, là, dans le sens que on est, le monde sont tannés, le monde sont vraiment, vraiment écœurés de la situation, on est à bout de souffle, c'est un effort qui était dû pour quelques semaines, qui devient quelques années, tu sais. Fait que je comprends le monde d'être tanné, mais il y a eu beaucoup, beaucoup de conversations, ou définitivement la conversation s'est beaucoup, beaucoup intensifiée depuis le couvre-feu sur la responsabilité du système de santé, la responsabilité des politiciens des dernières années sur un système qui est fragile, parce que tout le problème, la crise, est retraçable beaucoup au fait que notre capacité à traiter les personnes qui vont être atteintes, dans le sens qu'on n'a pas, on peut pas amener un stress supplémentaire sur le système de santé de cette grosseur-là, juste à cause que le système peut pas supporter une espèce d'affaire comme ça. Puis il y a, c'est un phénomène qui est difficilement accentué par le fait que les populations vulnérables ou les gens qui ont de moins bonnes conditions physiques ou n'importe quel marqueur de santé ou n'importe quelle précondition existante médicale qui représente quand même une pas pire partie de la population, ben, que ces gens-là sont à risque et que le pourcentage de la population à risque augmente. Fait on n'est pas capable de traiter cet afflux massif-là de population qui pourrait venir. Puis la conversation a beaucoup détourné depuis la COVID sur le fait que la responsabilité est principalement gouvernementale. Dans le sens que le gouvernement aurait dû mieux gérer ça, il aurait dû avoir un système qui permet de faire ça. On paye tellement de taxes, on paye tellement de ça. Puis je comprends vraiment de où est-ce que ça part, cet argument-là. Et je comprends l'idée qui est amenée dans le sens que c'est frustrant. Puis quand tu penses à ça, que tout soit mis sur pause pour une maladie qui a un taux de létalité dans les dixièmes de pourcentage, dans les points dixièmes de pourcentage, tu sais, c'est un peu absurde, c'est clair. Là. Mais il y a plusieurs problèmes avec ça. D'un, notre capacité de traiter dans le fait qu'on battait le taux de décès est pas mal plus, était plus haute dans ce temps-là, dans le sens qu'il y avait moins d'achalandage aux urgences et tout. Mais tu sais, le fait reste que le taux de décès lié à la COVID-19 reste relativement faible si t'as pas t'es pas âgé, si t'es pas 65, 70 ans et plus, pis t'as pas de conditions médicales préexistantes. Fait que c'est absurde quand on pense à ça, que quelque chose comme ça load le système, puis ça mène à quel point le système est de la marde si on n'est pas capable de prendre quelque chose qui est plus... C'est pas un rhume, c'est pas une grippe, là, c'est quelque chose de beaucoup plus sérieux, le taux de contagion est plus grand, tu sais. C'est pas exactement le T-virus dans Resident Evil. Là. On s'entend. C'est pas exactement ça, là, le coronavirus. Là. T'sais, on n'est pas à 2 pouces de tomber dans les Walking Dead. Là. C'est pas exactement ça, la conversation. T'sais. Fait que, il y a beaucoup de monde qui sont frustrés par ça et qui vont amener toute cette idée-là que la responsabilité est gouvernementale, que la responsabilité est beaucoup plus collective, que c'est un problème de système. T'sais. Et j'ai un énorme problème avec ça. Je vous cacherai pas que j'ai un gros, gros problème avec ça parce que la responsabilité du système de santé, selon mon humble avis, n'est pas collective d'une quelconque manière. Puis, plus souvent qu'autrement, lorsque tu es en train de blâmer ce système ou tu es en train de blâmer quelque chose, c'est vrai que tu as déresponsabilisé. T'es la personne qui blâme ses hormones pour le fait qu'elle perd pas de gras. Tu sais, t'es cette personne-là. Puis, je pense que je sais que ça a l'air sec un peu, fait que je vais donner des points puis je vais essayer d'expliquer un peu ce que je veux dire par là, mais le système est loadé principalement à cause qu'il y a un achalandage de gens qui sont vulnérables. C'est, le problème est là, c'est qu'il y a une bonne partie de la population quand même qui, si pas que ça, ça va se rajouter soit des conditions médicales préexistantes, soit un âge, soit l'humanité est rendue avec une certaine vulnérabilité à un certain pourcentage de la population. Puis c'est ce pourcentage-là, en vrai, qui est un problème, dans le sens que on pourrait probablement argumenter qu'on est moins résilient qu'on était avant. Puis ça, ce blâme-là, ne peut et ne doit absolument pas être envoyé sur un système de santé parce que ça va déresponsabiliser l'individu au plus haut point. Tu sais. Puis j'avais cette conversation-là, puis j'étais comme, dude, oui, le système marche pas, oui, le système est lourd, mais le système, dans son design, n'a jamais été conçu pour traiter des maladies chroniques. C'était beaucoup quelque chose qui était basé sur le aigu, dans le sens que tu viens, tu pognes un virus, tu pognes une infection, tu sacres un coup de hache dans le bras, tu rentres à l'urgence, tu te fais traiter, tu ressors. C'était ça le système à la base. Puis quand il a été développé, le design était beaucoup ça. Puis là, dans les dernières années, on a eu une augmentation des maladies chroniques, on a eu des gens qui n'ont plus ce in-out-là. Cette relation-là avec l'hôpital, avec les soins de santé n'existe plus. Fait que on arrive à une étape où est-ce que les gens se ramassent avec un simili-abonnement au système de santé, ce qui est un modèle d'affaires parfait pour une entreprise. C'est awesome que ton monde ait un abonnement, c'est awesome que tes clients reviennent puis que tu manques pas de clients, mais c'est pas exactement le scénario qui est optimal pour un système de santé comme ça, où est-ce que tu peux pas juste grossir le système, tu peux pas juste augmenter la capacité parce que, tu sais, notre efficacité à traiter quelque chose de ridicule, comme, ben pas ridicule, là, mais quelque chose de petit comme les infarctus, parce que j'ai juste cette stat-là en tête. Mais écoute, tu rentres à l'urgence juste il y a 40 ans, tu rentres à l'urgence en ce moment, ton taux de survie a augmenté de quasiment 66-70%. Fait que tu sais, on est vraiment, vraiment plus sharp à traiter. L'efficacité médicale est beaucoup plus grande dans le traitement. On a définitivement beaucoup plus de connaissances que dans les 30-40 dernières années. La science évolue très vite. On peut peut-être argumenter trop vite, mais la science évolue très vite, les connaissances évoluent très vite, notre système grossit. Fait que même si on s'augmente avec une espèce de meilleur système, meilleure capacité d'offrir un produit, ou un service dans ce cas-ci, meilleure capacité d'offrir un service, on fournit pas. On fournit absolument pas. Puis tu sais, la raison, c'est ça, c'est qu'il y a définitivement une désintégration de la condition physique des gens. Puis cette conversation-là va largement, largement au-delà du poids. Okay? C'est pas juste une question de commencer à tomber sa grossophobie et de lier les obèses à tous les maux sur terre. Okay? Parce que dans le monde du fitness, on adore ça. C'est qu'on trippe main raide là-dessus sur blâmer, puis une chose, ou juste envoyer le courant d'un bord puis de l'autre. Comme genre, j'ai essayé d'en parler un peu plus tantôt, mais tu sais, particulièrement tout ce qui se passe avec la grossophobie en ce moment, c'est comme, on dirait que tu n'arrives pas à te placer dans un côté sans être. Tu sais, moi et Maxime Saint-Ange, on s'est fait traiter de grossophobe par des intervenantes. Ah, fuck it, là, c'est des nutritionnistes. Mais on s'est fait traiter de grossophobe par des nutritionnistes qui sont beaucoup, beaucoup dans le courant du wellness puis de ces affaires-là. Puis je m'étais déjà fait traiter de grossophobe avant. Je pense que j'avais fait un podcast là-dessus. J'étais comme, tabarnak, man, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Mais on s'est fait comme rentrer dedans suite au podcast en disant qu'on encourageait la perte de gras. Fait que tu sais, on avait comme, puis t'es comme, il y a une science de ça, right? Tu sais, il y a quand même un aspect métabolique, il y a quand même un aspect santé qui doit être considéré. Tu sais, on doit arriver avec, c'est pas bon, le gras viscéral, là, tu sais, oui, ça peut faire obstruction à des organes vitaux, man. C'est pas positif, tu sais. Puis on arrive à une étape où est-ce qu'on est en train de se perdre dans une espèce de accepte-toi comme t'es, puis c'est correct de s'accepter, c'est super bon, mais tu sais, faut pas que, là, on parle beaucoup d'à quel point est-ce que la santé physique peut nuire à la santé mentale. Which is very true, là. Il y a tellement de monde qui font moi, le premier, en fait, c'est une erreur que j'ai faite tellement souvent à juste penser que quand tu vas voir tes abdos, penser que quand tu vas voir ton six-pack, man, les filles vont te courir après. Puis là, ce jour-là, là, le jour où tu vas voir ta démarcation d'abdos, tu vas donc être fucking heureux, man. Puis je me suis rendu deep dans certaines approches de restriction calorique. Puis, tu sais, avoir un bon isolement social, juste à pouvoir être ses abdos. Puis quand t'arrives là, t'es comme, ouais, finalement, j'étais pas mieux, je suis pas mieux que j'étais avant, tu sais. Fait que si t'es pas heureux avant ta perte de gras, ben, man, tu seras pas après, là. C'est pas le fait. Ou si tu l'es après, c'est que t'as appris à, comme, apprécier le processus, puis t'as appris à apprécier ça, puis t'es fier de ce que t'as accompli. C'est ça qui va faire que tu vas être content. Ce sera pas nécessairement ton poids en soi, tu sais. Mais l'argument étant, man, si t'es misérable avant de perdre du poids, tu vas l'être après, là. Tu sais, c'est ça, un peu l'idée. Fait que, il y a définitivement, c'est clair que la santé physique ne doit pas obstruer la santé mentale. Et là, ce courant-là est en train de se lancer dans une espèce de courant anti-diète qui est, c'est quoi une... Parce que non, je veux pas lancer des trucs là puis commencer à lancer plein d'idées, mais tu sais, on pourrait vraiment s'entendre sur une grosse conversation juste à définir le mot diète, ce qu'on voit pas aujourd'hui. Mais tu sais, l'espèce de courant anti-diète, anti-perte de gras, anti-health at every size, toutes ces affaires-là, c'est en train de dénaturer un peu la conversation vers santé métabolique, tandis qu'à l'autre extrême, et le mouvement grossophobe, il vient pas de rien. Tu as bien des entraîneurs qui sont des hosties de douchebags, là, carrément, qui sont des marques, qui font juste taper sur la perte de gras, soit pour des conflits d'intérêts monétaires assez prononcés, dans le sens qu'ils vivent de ça, ou pour je sais pas quoi, puis qui font la promotion d'un mode de vie qui est pas divin, qui devrait jamais être vu comme étant absolu, tu sais, si tu plus souvent, puis je bitch pas là-dedans parce que j'ai moins des amis, surtout dans la dernière année, je me suis fait quand même pas mal d'amis du monde du bodybuilding, puis, tu sais, plus souvent qu'autrement, ces gars-là vont mettre des gens sur des diètes de bodybuilder, puis c'est comme si, hey man, si on n'a pas des abdos, t'es gras, t'es comme, hey, on est fucking loin de la réalité, puis le courant grossophobe répond à ça, il y a vraiment eu une polarisation très, très prononcée de ces courants-là, mais tu sais, je pense que dans le monde de l'entraînement, on aime ça envoyer tout dans les extrêmes tout le temps, puis on est définitivement en train de le balancer un peu avec le COVID, dans le sens que c'est pas la faute des individus, c'est pas la faute des maladies chroniques, c'est la faute du gouvernement qui est plus capable de gérer ça, puis qui aurait dû faire autrement, puis qui devrait faire la promotion d'activité physique. Puis c'est là que j'éprouve un énorme malaise. C'est cette idée-là que la responsabilisation, que la faute en termes d'activité physique, que la faute en termes de bonnes habitudes alimentaires ou de meilleures habitudes alimentaires revient au gouvernement qui n'a pas fait la promotion assez des saines habitudes de vie. Okay? J'ai fait une maîtrise là-dessus. OK. Écoute, je ne me définis pas comme un expert. Puis, si tu penses que tu es bon dans un domaine, il faut juste que tu aies dans un congrès scientifique. Puis tu vas revenir assez humble. Là, je pense que c'est pas long. Là, mais tu sais, j'ai eu un intérêt très, très prononcé pour la promotion de l'activité physique puis les saines alimentations. Puis la saine alimentation, puis comment est-ce qu'on peut moduler les environnements pour influencer ou non certains comportements. Je veux dire, fuck, c'est exactement ça que j'ai fait à l'UQTR. Comment est-ce qu'on peut remodeler un environnement pour faire la promotion de telle habitude ou quels sont les marqueurs qui vont permettre qu'on fasse ça. Tu sais, c'était ça mon sujet d'expertise. Ça l'a été pendant plusieurs années. Puis j'ai fait ça pour arriver à la conclusion que c'est pas une responsabilité gouvernementale. Puis c'est pas pour dire qu'il n'y a pas d'inégalités qui sont présentes. Puis on devrait tous, indépendamment de notre sexe, indépendamment de notre revenu, indépendamment de notre classe sociale slash de notre ethnie, on devrait tous avoir à peu près accès aux mêmes choses. Et je pense qu'il y a définitivement des inégalités qui sont présentes dans le modèle sociétal, dans notre modèle social en ce moment, que ces inégalités-là doivent être travaillées, qu'il ne devrait pas y avoir. Il ne devrait pas y avoir vraiment, tu sais, puis on parle de grossophobie parce que, ben, je parle de grossophobie, j'en ai parlé tout seul la dernière minute, on parle de grossophobie, mais tu ne devrais pas avoir accès. On a un nouveau podcast qui s'en vient sur le truc, vous allez probablement voir, là, mais c'est un gars qui a vécu la grossophobie médicale, puis tu sais, il est allé à l'urgence parce qu'il est passé sur un chantier de construction, il y a un marteau qui est tombé sur la tête, puis il s'est fait dire qu'il fallait qu'il perde du poids pour traiter, genre, t'es comme dude, il y a un fucking marteau qui est tombé sur la tête, genre, il est pas, c'est parce qu'il fait du diabète, là, tu sais, c'est pas exactement la même affaire, puis ce gars-là a eu une qualité de traitement qui a été réduite à cause qu'il était obèse, c'est ça, c'est une inégalité flagrante, là, on s'entend, puis il devrait pas y avoir ça, ça devrait pas être présent, puis par contre, passe une étape où est-ce que le gouvernement devrait faire cette réduction-là d'inégalité, parce que si on tombe dans un modèle 100% capitaliste, 100% libre-marché, ben, les inégalités ils ont tendance à augmenter typiquement. Puis si tu n'es pauvre, ben, ça va être dur de finir riche. Ça va dans un modèle pur où tout le monde devrait avoir accès aux mêmes opportunités à peu près. Mais au-delà de ça, il se passe un moment où est-ce que, à force de faire la promotion d'approche collective, on finit par ôter une grosse partie du blâme qui repose sur le choix individuel, qui repose sur la capacité de l'être humain à choisir sa direction potentiellement être libre, tu sais, dans le sens que, puis il faut pas oublier que en termes d'activité physique puis en termes de nutrition, avant même d'être, il y a de la science, on pourrait tomber dans le cycle de Krebs ensemble si vous voulez, là. Il y a clairement de la science, il y a clairement des choses qui existent, mais avant même de tomber dans ça, c'est un comportement. T'sais. Ce comportement-là, malheureusement, autant que j'aimerais vous dire l'éducation physique n'est pas importante, ou c'est même potentiellement les cours d'économie familiale, là, je ne sais pas s'il y en a qui ont connu ça, ou est-ce qu'on tombait dans des bases de cuisine, ces affaires-là. T'sais. Malheureusement, là, je sais qu'il y a des gens moins sportifs qui écoutent, je sais qu'il y a des gens qui ont eu des mauvaises expériences à l'école, en éducation physique, ou whatever, mais tu sais, ultimement, c'est une partie intégrante de l'hygiène. Puis, au même titre que si les gens se brossaient pas les dents, on n'aurait probablement pas tendance à blâmer le gouvernement puis à dire pourquoi vous faites pas des campagnes massives de brossage de dents. Puis comme, écoute, man, c'est ta responsabilité de le faire. T'sais. Puis oui, on peut mettre des informations, on peut faire la promotion de certains concepts, certains abstraits ou certaines. En tout cas, plus à ne pas faire le comportement désiré, mais ultimement, le gouvernement ne peut pas débarquer chez vous, puis mettre un chrono, puis dire « Alright, voici un gun sur ta tête, entraîne-toi pendant 20 minutes. » Tu sais, c'est une responsabilité individuelle. Il faut faire vraiment attention à ce qu'on fait avec ça, à juste commencer à blâmer le gouvernement parce qu'on est fâché que les gyms soient fermés, parce que c'est plus difficile à concrètement prétendre qu'on n'a plus de choix, tu sais, puis qu'on n'a plus d'options. Puis
C'est ça mon gros problème. T'sais, on peut blâmer le gouvernement pour sa gestion. Il y a définitivement des affaires qui auraient dû être faites différemment. Je pense qu'on peut avoir des conversations intéressantes là-dessus, mais tu sais, il ne faut pas nier non plus que le gouvernement ne pourra jamais répondre à cette demande-là. C'est juste un modèle d'affaires qui ne se peut pas dans la réalité. Là. Tu ne peux pas avoir un afflux massif de clients qui continue d'augmenter puis juste augmenter, puis nourrir les fonds publics. Là, à un moment donné, il va se passer une étape où est-ce que ça nous prend 150% du PIB juste pour fournir au système de santé, tu sais. On va mettre de la prévention aussi, Puis là, je sais qu'il y en a beaucoup.
Je sais qu'il y a beaucoup de kin, puis il y a beaucoup de gens qui ont fait de kinésiologie, en fait, qui disent « Ah, c'est parce que les kin devraient plus reconnaître, c'est parce que les kin devraient être dans le système de santé. » Personnellement, je pense pas que les kin devraient être dans le système de santé. Je pense que justement, tu sais, c'est je pense pas que c'est au système de santé à s'apatrier cette partie-là. Peut-être certains kin en termes de réadaptation spécifique, où est-ce qu'on peut complémenter un traitement existant. Là. Je pense que là, ça aurait peut-être de la valeur. Mais tu sais, si on parle de vraiment de tomber en prévention, je pense que c'est vraiment quelque chose qui va tomber pas mal plus dans la sphère liberté individuelle. Puis c'est ça le gros problème avec toute la conversation sur la grossophobie en ce moment. Puis c'est le sens que les gens devraient être bien à peu importe leur poids, puis c'est super important, mais tu sais. Puis ça arrive-tu de rencontrer des gens qui sont en situation d'obésité morbide, qui sont heureuses mentalement, tu sais, parce qu'ils sont obèses, genre, qui font genre, ah ouais, je suis tellement bien à ce point-là, ça arrive pas, là. Je veux dire, ok, peut-être, j'en ai jamais vu. Mais tu sais, c'est assez improbable, right, que ça arrive. Si tu te rends en situation d'obésité morbide, réalistiquement, tu vas avoir des petites affaires à travailler, tu vas avoir des petites affaires à t'aider pour optimiser ton bonheur. Fait, même si c'est pas nécessairement le même combat, c'est pas deux combats à poser non plus, je pense, quand on va tomber en perte de gueule là-dedans, puis c'est un problème parce que c'est très, très difficile. C'est très, très difficile de prendre position là-dessus, tu sais, parce que comme vous voyez, je parle depuis 20 minutes, puis concrètement, j'ai pas pris position sur rien, j'ai vraiment rien fait, j'ai juste étalé une réflexion, puis amené au point que blâmer le système de santé, c'est une chose, mais faut pas oublier qu'on est des acteurs très, 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 très importants là-dedans, tu sais, puis c'est ça le problème avec la grossophobie, c'est ça le problème avec tout ça, c'est cette idée-là que tu as le droit d'être à n'importe quel point, tu as le droit de manger ce que tu veux, tu as la liberté de le faire, mais il va se passer un certain seuil dans lequel tes actions individuelles vont avoir une conséquence néfaste sur la société, vont avoir un néfaste sur l'ensemble parce que le coût va augmenter. C'est pas comme si tu avais des mauvaises habitudes de vie, puis tu sais, c'est pas pour dire qu'il faut commencer à mettre des aliments dans des catégories mauvaises, mais si tu manges du fast-food en quantité industrielle, je serais pas surpris que tu me développes des problèmes de santé métabolique. Là. Ça serait pas exactement surprenant. Il va se passer un espèce de seuil où est-ce que ben, ça va être la société d'assumer ces coûts-là. Fait. Autant qu'il faut pas commencer à taper sur les situations, les personnes en situation d'obésité en leur disant hey, « toi, faut diminuer leur qualité de traitement, c'est leur faute, ils sont là. » Il faut trouver une façon de traiter ça sans non plus que les conséquences individuelles soient répercutées sur le tout, genre. Puis c'est exactement ça le problème, je pense, d'avoir un discours comme ça, où est-ce qu'on tombe à une certaine étape de « Ah, c'est la faute du gouvernement, c'est eux qui gèrent pas ça, je devrais pas mettre mon masque, puis je devrais pas être privé de telle affaire à cause que le gouvernement a pas géré ça. » Ben, t'es comme, ultimement, c'est un peu notre responsabilité collective à tous si le système de santé est loadé, parce que c'est une question sociétale, c'est une question collective, vraiment, tu sais. Puis je pense qu'il y a beaucoup d'entraîneurs, puis c'est la raison pour laquelle je fais ce podcast-là, je pense qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui tâchent propre au bien, qui sont frustrés de cette situation-là, c'est 100% compréhensible. Je veux dire, j'aimerais pas ça avoir des loyers de 3 000$ à payer en ce moment. J'aurais pas de mon gym pas fermé, j'aurais pas de plaisir, mais tu sais, si tu écoutes ça, puis t'es dans les personnes qui sortent ces arguments-là que j'ai énumérés, que le droit de gym est fermé à cause du gouvernement, puis t'es pisse à cause de ça, je pense que t'es pas en train de justement considérer ta responsabilité individuelle là-dedans, que t'es certainement pas en train de prendre ta position de leader dans tout ce qui serait promotion des habitudes de vie, tout ce qui serait promotion de l'activité physique. Si tu es un gym, tu es un expert là-dedans ou tu as une expertise là-dedans. Puis pendant que le monde a besoin de toi, tu es en train de faire ta petite bitch dans ton coin et crier que c'est la faute du système. Tu sais. Puis définitivement, il y a des stratégies de monétisation qui existent. Il y a définitivement des stratégies. Il y a des modèles que c'est plus dur. Mais tu sais, il y a des choses qui peuvent et doivent être faites. Je pense juste à Mathieu Dubreuil. Je ne serais pas à l'aise de dire les chiffres de maths sur un podcast, parce qu'il m'a dit, puis tu sais, je veux pas vous répéter ça. Et Matt Dubreuil, qui est propriétaire de CrossFit Laval,
Matt, quand les gyms ont fermé, il a tout perdu. Là. Il n'y avait plus rien. Là. Il n'y a plus de revenus. Son revenu était un gym, puis Matt, il donnait des séminaires de CrossFit. Là. La fin de semaine, il donnait des formations dans des gyms de CrossFit. Les gyms sont fermés. C'est pas exactement le bon moment d'acheter une certification CrossFit. Ce n'est pas exactement le timing pour aller donner des cours de groupe. Là. Puis Matt, il s'est viré de bord. Il a lancé son CrossFit Laval en ligne, je pense que ça s'appelle. CrossFit Laval chez toi, quelque chose comme ça. Il a lancé une plateforme d'entraînement, d'alimentation, de coaching, des études de vie, puis ça a pogné super bien. Puis guess what? Non, je ne sais pas l'aise de vous dire ça. Mais tu sais, il s'en sort vraiment bien. Je ne donnerai pas de chiffres, je ne donnerai pas de l'état de son entreprise, mais il s'en sort vraiment bien. Et c'est une fucking inspiration, Matt, là. Ça va vraiment bien. Il est en train de revirer ça de bord. Puis je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont ce potentiel-là d'être des fucking leaders dans leur domaine en ce moment, qui sont carrément en train de contribuer à l'espèce de déresponsabilisation sociale puis à l'autodestruction collective qui se passe en ce moment. Fait que réfléchissez à ça. Vraiment, je veux pas faire un podcast long parce que quand je fais juste bitcher, je fais juste m'énerver puis c'est pas super bon pour ma tension, mais tu sais, surtout qu'en ce moment, je suis en confinement préventif. Fucking cochonnerie, man. J'ai développé comme des symptômes de COVID. Fait que là, tous les clients sont mis à distance. J'avais une semaine quand même compliquée à mettre. Ça fait 2 jours que j'ai pas vu ma blonde, mais la vie continue. Ça fait 3 jours que j'ai pas vu ma blonde. Puis j'attends d'avoir mon résultat, j'attends d'avoir les trucs. Puis là, le test devrait rentrer dans pas long. C'est rentré hier, finalement, ça n'a pas rentré, mais c'est pour dire que j'étais en prévention puis que j'ai pas vu de client puis j'ai rien vu. Fait que je vais essayer de pas rajouter une une lourdeur non nécessaire à ma situation. Mais c'est vraiment, vraiment important de finir sur cette note-là. C'est une citation de John F. Kennedy, mais tu sais, je pense qu'elle a jamais été aussi pertinente en ce moment. C'est « Demandez-vous pas qu'est-ce que vous pouvez faire pour votre gouvernement. » Demandez-vous pas qu'est-ce que le gouvernement peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre gouvernement. Puis il faut absolument pas que cette espèce de bitchage collectif-là, anti-système, qui a vraiment raison d'être, qu'il y a bien des affaires qui pourraient et devraient être faites mieux, c'est fucking frustrant. Puis c'est de l'hostie marde qu'on se ramasse à porter des masques puis à se noyer les mains dans du purel sur une base régulière à cause que notre système n'est pas aussi sharp qu'il devrait l'être. Okay? C'est vraiment de la marde. Mais cette situation-là n'efface en rien la responsabilité collective qu'on a à prendre position et à être les leaders qu'on peut l'être dans cette promotion-là des habitudes de vie. Fait plus de bitching, juste essayons d'avancer un peu dans la bonne direction. Puis je vous laisse avec la fin de la toune qui est vraiment bonne. Allez écouter si vous aimez le trip. Puis un autre podcast solo un jour. Je ne sais pas trop quand ça va. On a filmé quelques podcasts particulièrement ça avec Maxime qui sont vraiment, vraiment nice. Honnêtement, je suis content dans la direction dans laquelle on spin ça avec Maxime. Puis fait que ça, les podcasts sortent les semaines. J'ai une couple de podcasts avec des invités qui devraient sortir dans les prochaines semaines aussi. Fait qu'on a une couple d'affaires très cool qui s'en viennent. Puis c'est ça. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager ça avec vos amis si vous trouvez que c'est pertinent. Sinon, la fin de la toune, puis une bonne fin de journée tout le monde. I think I'm going nowhere like a rat trapped in a maze. Every wall that I knock down is just a wall that I replace. I'm in a race against myself, I try to keep a steady pace. How the fuck will I escape if I never close my case? Oh my god, I keep on stressing every second that I waste. Is another second sooner to a blessing I won't take. But my therapist will tell me that I'm going through a stage. Yeah, it's not a fucking stage, I just wanna feel okay. Okay, motherfucker, now you got my attention. I need to change a couple things cause something is missing. And what if I was alive, tell you everything is fine. Every single fucking day, I get closer to the grave. I am terrified, I fell asleep, never will again. Crush my car just to feel it dead. Let out rage, the seeds of rage, but I'm not lightly. Cause I'm about to break down, searching for a way out. I'm a liar, I'm a cheater, I'm a non-believer. I'm not popular, popular, my strength. God, no! Cause I'm